Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. La question n'est pas de savoir si l'Iran va riposter, mais quand. Depuis 24 heures, les renseignements américains alertent sur le risque d'une frappe sur Israël. Joe Biden lui-même vient tout juste de réaffirmer son soutien à l'État hébreu avec l'espoir peut-être de dissuader Téhéran de répondre à la frappe sur une annexe de son consulat à Damas la semaine dernière. La compagnie aérienne Lufthansa a suspendu ses vols vers l'Iran et les chancelleries du monde entier redoutent maintenant ce qu'on pourrait appeler le scénario noir, celui d'un embrasement de la région. En Israël, les soldats des unités de combat ont été rappelés et les autorités préviennent déjà qu'en cas de frappe, l'Iran sera ciblé à son tour. L'Amérique alerte, l'Iran va frapper Israël, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de « Ce qui nous attend » publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le dernier numéro est intitulé « Liban, polycrise et menaces existentielles ». Avec nous ce soir, Armin Arefi. Vous êtes grand reporter au Point. Vous êtes spécialiste du Proche et Moyen-Orient, ancien correspondant à Téhéran. Je cite votre livre « Un printemps à Téhéran » publié chez Plon. Enfin, Raymond Taz, vous êtes chercheuse en géopolitique à l'Institut international pour les études stratégiques. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais que, pour commencer cette émission, vous écoutiez la déclaration à l'instant de Joe Biden. On l'écoute.
Les Iraniens menacent de lancer une attaque importante contre Israël. Comme je l'ai dit au Premier ministre Netanyahou, notre engagement pour la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés est inébranlable.
Général Dominique Trinquant, comment est-ce que vous lisez cette déclaration du président américain ?
Alors pardonnez-moi, je ne l'ai pas entendu en anglais et ma question c'est est-ce que c'est une attaque massive. Ou importante ?
Massive, il y a les deux traductions.
Voilà, parce que importante veut dire qu'on frappe un endroit important, massive, ça a quelque chose de massif.
Alors je peux apporter une nuance, c'est massive selon les services de renseignement, importante selon le président des États-Unis.
D'accord. Voilà, parce que une réponse iranienne à ce qui s'est passé, la frappe sur le consulat, me paraît incontournable, une évidence. Maintenant, quel type de menace ?
Alors ça, on va en parler ce soir. On va vraiment entrer dans le détail de la façon dont les choses peuvent se passer. Le fait que le président des États-Unis, sans aucun doute, dise « ça va arriver »,
oui.
Et alors, qu'il annonce publiquement son soutien à Israël. Pourquoi fait-il ça maintenant ?
Alors, il le dit maintenant en particulier parce que les États-Unis s'étaient un peu distancés vis-à-vis de la position israélienne sur Gaza. Et là, il réaffirme le soutien des États-Unis face à l'Iran. Donc, si vous voulez, il y a deux sujets qui sont bien séparés quand même. Hein. Sur Gaza, régler le problème, et on vous a donné quelques indications pour ça. Maintenant, messieurs les Iraniens, ne vous faites aucune illusion, nous sommes toujours un soutien inconditionnel à Israël. Et ça, c'est extrêmement important.
C'était une clarification de la position américaine de soutien vis-à-vis d'Israël.
Oui, parce qu'il faut être dissuasif vis-à-vis de l'Iran. Et pour être dissuasif vis-à-vis de l'Iran sur une attaque en Israël, il n'y a que les États-Unis qui peuvent être vraiment dissuasifs. Je ne dis pas que les Israéliens n'ont pas les moyens. Mais je dis que la puissance majeure qui se range aux côtés d'Israéliens doit être un indicateur pour les Iraniens.
David Rigoulet-Rose, le fait qu'on le fasse publiquement, solennellement, comme ça, ça peut parfois se faire de service à service. Là, il y avait besoin de le réaffirmer parce que, visiblement, il n'y a pas de doute sur le fait que l'Iran va riposter à ce qui s'est passé.
Il n'y a aucun doute sur le principe de la riposte. La question, c'est où sera le curseur ?
C'est ça.
Et donc j'imagine que le président a des informations quand même assez solides, déjà, ce qui explique qu'il soit très explicite, parce qu'effectivement, comme le disait le général, il y a le problème de la dissuasion, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Comme il y avait cette prise de distance sur la question de Gaza, il faut montrer aux ennemis de l'État hébreu que ça n'implique pas forcément une distance sur tous les fronts. Hein, et qu'en l'occurrence, le soutien sera de toute façon là-dessus, il n'y a pas de doute.
Est-ce que c'est une façon ou une volonté de dissuader Téhéran ?
Oui, il y a une forme de dissuasion, effectivement, qui est en disant nous sommes en mesure, nous, d'intervenir aussi directement en soutien. Ça ne sera pas que l'affaire d'Israël éventuellement, ça dépend de la forme que ça prendra, mais donc sachez qu'effectivement, il y a un risque.
Raymond Taz.
Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Si vous vous rappelez, juste après le 7 octobre, le président américain a fait une déclaration et il a dit « Je dis directement à l'Iran, don't, ne le faites pas. » C'est-à-dire, n'élargissez pas ce conflit. Là, il ne dit pas « don't, ne le faites pas ». Il dit juste « on est en soutien à Israël et notre soutien est indéfectible ». Le curseur a aussi…
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce qu'en fait, juste après le 7 octobre, c'est vrai que les États-Unis ont joué le rôle central et principal sur la dissuasion. Ils ont envoyé leur groupe aéronaval qui a joué un vrai rôle de dissuasion par rapport à l'Iran, au Hezbollah et à leur donc, axe qu'ils appellent l'axe de la résistance pour faire en sorte de contenir le conflit. Ça, c'était important. Aujourd'hui, il y a des contacts entre les Américains et les Iraniens depuis 6 mois pour continuer à contenir l'étendue. En même temps, les Américains comprennent que ça fait 6 mois que les Iraniens sont dans une certaine retenue. On reparlera de
bien
ça.
Sûr.
Et là, face à la dernière frappe israélienne qui quand même s'attaque à une annexe d'un consulat, c'est-à-dire un bâtiment qui est plutôt un bâtiment diplomatique, c'est une attaque où même les Américains comprennent que les Iraniens doivent répondre d'une certaine manière et ils sont en train d'essayer de pondérer cette réponse.
On va revenir encore une fois sur ce qui pourrait se passer, tous les scénarios que vous pouvez évoquer les uns et les autres. Mais je voudrais qu'on analyse le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je le disais en débutant cette émission, la Lufthansa, compagnie allemande, a suspendu ses vols vers Téhéran. On a eu une réaction aussi du chef de la diplomatie allemande qui a appelé à la retenue. Bon, c'est la Russie qui joue un autre jeu dans la région, mais qui dit, donc c'est Dimitri Peskov, qui dit qu'il est très important que chacun fasse aujourd'hui preuve de retenue afin de ne pas déstabiliser la région qui, alors avec un brin de malice, n'est pas très stable et prévisible. Dans quel moment sommes-nous ? Cette escalade que l'on redoute, que l'on craint, on a l'impression que dans les chancelleries internationales, il y a ce moment de fébrilité. Est-ce que vous l'analysez comme ça aussi ?
Bon, on se retrouve exactement dans le même moment qu'on a connu déjà en janvier 2020, suite à l'élimination par les États-Unis du chef de la branche extérieure des gardiens de la Révolution, le général iranien Rassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds, qui avait donc été tué suite à une frappe de drone approuvée par Donald Trump. Et les Iraniens, à l'époque, avaient déjà affirmé qu'ils riposteraient contre la mort de leur général. On attendait une riposte, ils avaient déjà donc annoncé, sauf qu'ils avaient appelés avant d'envoyer leurs missiles balistiques sur une base américaine, en tout cas une base irakienne contenant des soldats américains à Damas, ils avaient appelé le premier ministre irakien afin que celui-ci prévienne les Américains, afin qu'il n'y ait zéro mort américain. Et c'est très important parce que s'il y avait eu un seul mort américain à cette époque-là, il y a maintenant 4 ans, Donald Trump avait déjà prévu de bombarder l'Iran. On est dans une situation comparable aujourd'hui, à savoir que l'Iran, comme l'a dit Rim Momtaz, d'ailleurs tout le monde croit sur ce plateau, est obligé de répondre parce que c'est sa dissuasion qui est en jeu. Si l'Iran ne répond pas, Israël frappera d'autres hauts généraux des gardiens de la Révolution. Maintenant, l'Iran sait très bien que s'il répond trop fort, c'est l'embrasement, c'est le risque d'une riposte israélienne sur le territoire iranien, ce qu'a déjà averti le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Et ça, les Iraniens ne le souhaitent surtout pas. On sait que l'Iran est en train de poursuivre tambour battant son programme nucléaire auquel est opposé Israël et qu'il se rapproche chaque jour davantage de la bombe. Donc, ne pas répondre, aveu de faiblesse, autre élimination à venir de la part d'Israël, répondre trop fort, c'est une guerre. Donc il faut que l'Iran, enfin je ne suis pas à la place des Iraniens, mais les Iraniens sont face à un dilemme. Ils doivent et ils vont probablement répondre, mais pas trop fort. Donc voilà pourquoi.
C'est pour ça que depuis le début, les uns et les autres, vous dites la question est de savoir comment ils vont répondre. Et on va y revenir, je vais vous redonner la parole dans un instant. Vous parliez de la réaction des Israéliens. On n'a pas cité pour l'instant l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, qui a dit hier, le régime maléfique a fait une erreur, il doit être puni et il sera puni. Alors en tout cas, c'est une mise en garde qui est lancée publiquement, cette fois-ci par les Américains, qui alertent désormais sur une attaque inévitable depuis le bombardement de l'annexe du consul iranien à Damas par Israël, même si cette attaque, on le précise, n'a pas été revendiquée quand même par l'État hébreu. La crainte d'une réplique et d'un embrasement est dans tous les esprits. La seule question, vous l'avez posée d'ailleurs autour de la table, qui est posée, et quelle sera précisément la réponse de Téhéran, Nicolas Bidart et Christophe Roquet.
Pour Washington, il n'y a plus de doute. L'Iran devrait bientôt s'en prendre à Israël, selon les renseignements américains, et ce n'est qu'une question de temps.
Les États-Unis sont en état d'alerte élevée et se préparent activement à une attaque importante qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine par l'Iran, ciblant des actifs israéliens ou américains dans la région. Une attaque iranienne est inévitable.
La crainte de représailles de Téhéran, après le bombardement du consulat iranien à Damas le 1er avril, imputé à Israël. Un bâtiment diplomatique détruit, 16 morts, et parmi eux, 7 gardiens de la Révolution, dont un général. Dans les rues de Téhéran, l'hommage de milliers d'Iraniens aux militaires tués, des drapeaux israéliens et américains brûlés. Le guide suprême de la révolution islamique promet à nouveau de se venger de l'État hébreu.
Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et le sera. Lorsqu'ils ont attaqué notre consulat, cela signifie qu'ils ont attaqué notre territoire.
En déplacement en Syrie ce lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères va jusqu'à accuser Washington d'avoir approuvé la frappe sur le consulat.
Je veux annoncer haut et fort depuis Damas que l'Amérique est responsable de cet incident et qu'elle doit rendre des comptes.
Information pourtant démentie dès le lendemain du bombardement par la Maison-Blanche. Face aux menaces de Téhéran, Joe Biden réaffirme son soutien à Israël.
Notre engagement pour la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés est inébranlable. Je répète, inébranlable. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël.
Une menace prise très au sérieux, car l'Iran dispose de missiles de longue portée, susceptibles d'atteindre l'État hébreu. Téhéran peut aussi compter sur un puissant allié, à proximité d'Israël, le Hezbollah libanais. L'organisation se dit prête à suivre toute consigne de Téhéran.
Le moment, le lieu et l'ampleur de la réponse, tout cela appartient au guide et aux responsables de la République islamique. Personne ne doit s'inquiéter ou hésiter. Nous n'avons pas encore utilisé nos principales armes, ni nos principales forces.
L'État hébreu, qui n'a toujours pas confirmé ni infirmé sa responsabilité dans le bombardement, prévient : une agression de Téhéran ne restera pas sans réponse.
Pendant des années, l'Iran a œuvré contre nous, à la fois directement et par l'intermédiaire de ses émissaires. Et Israël a donc mené des actions défensives et offensives contre l'Iran et ses émissaires. Nous saurons nous défendre et nous agirons selon le principe simple que quiconque nous fait du mal ou projette de nous faire du mal, nous lui en ferons à notre tour.
Une nouvelle escalade régionale au Proche-Orient, c'est la crainte de l'Europe. La chef de la diplomatie allemande a appelé son homologue iranien au calme lors d'un entretien téléphonique. Même la Russie, en pleine guerre avec Kiev, se permet de demander l'apaisement des tensions.
Il est très important que chacun fasse aujourd'hui preuve de retenue afin de ne pas déstabiliser la région, qui n'est déjà pas très stable et prévisible.
Des tensions dans la région qui ont poussé hier la compagnie aérienne allemande Lufthansa à suspendre ses vols à destination et en provenance de Téhéran, au moins jusqu'à samedi.
Je voudrais qu'on reparte sur cette inquiétude en Israël. Il y a cette déclaration du porte-parole de l'armée israélienne qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des générateurs, de stocker de la nourriture et de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques. C'est ce qui se passe en ce moment en Israël. Il y a une vraie peur d'une offensive iranienne.
En tout cas, de la nature de la réplique iranienne, oui. Même, il y a eu un cafouillage au niveau des écoles, puisque le ministre de l'Éducation aurait demandé, justement, aurait envisagé de le faire en distanciel. Et puis, il a dit que c'était une rumeur, que c'était pas lui. Et ça a été quand même confirmé par les établissements scolaires. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une sourde inquiétude.
Ouais.
C'est incontestable. Et puis, de toute façon, il y a une mobilisation supplémentaire des réservistes qui est
arrivée. Donc, Israël se prépare à une frappe.
Ah oui, ça, c'est incontestable. Oui.
Ouais.
Mais Israël, qui est un pays en guerre depuis longtemps, est vraiment en guerre depuis 6 mois sur un front. avec un front au nord, mais enfin qui n'est pas très actif, mais où la population a été évacuée. Et donc avoir, j'allais dire, deux fronts ou trois fronts en même temps pour Israël, ça serait une catastrophe.
Mais Yoav Gallant l'anticipait, il a redit à plusieurs reprises qu'il était dans une logique de guerre multifront.
Yoav Gallant, c'est le ministre de la Défense. Cette question de Michel en Belgique. Depuis des mois, vous nous dites que l'Iran n'a ni les moyens ni l'envie d'attaquer Israël. Qu'est-ce qui a changé depuis ?
Alors, d'un côté, l'Iran montre depuis 6 mois qu'elle ne veut pas la guerre généralisée. Ce n'est pas juste une question de moyens ou pas. Elle a les moyens de taper là où elle veut. Elle ne veut pas, ou il ne veut pas, l'Iran, une guerre généralisée. Par contre, là, ce qui a changé, c'est que ça fait 6 mois que les Iraniens montrent une certaine retenue. Et je sais que ça peut choquer certains, mais c'est vrai qu'il y a des règles d'engagement qui existent entre les Iraniens et les Israéliens depuis des années, parce qu'ils se font la guerre depuis des années. Ils se tapent dessus en Syrie, ils se tapent dessus en Irak, ils se tapent dessus même en Iran même. Israël fait des assassinations de scientifiques iraniens sur le sol iranien. Et tout ça, ça passe parce que ça fait partie des règles d'engagement qui sont établies. C'est la même chose avec le Hezbollah, qui est très proche de l'Iran au Liban. Sauf que depuis le 7 octobre, Israël est dans une posture où il sent qu'il a un besoin de rétablir sa dissuasion, parce qu'évidemment, l'attaque du 7 octobre a ébranlé sa sécurité.
Les règles ont changé.
Israël change les règles. Ouais. Il est dans une posture d'escalade par rapport au Hezbollah et à l'Iran. Ouais. Et ça fait 6 mois que le Hezbollah et l'Iran essayent de gérer cette escalade et sont dans une retenue. Sauf que là, la frappe à Damas a ébranlé toutes les règles possibles. Pourquoi ? Parce que c'était une attaque sur un bâtiment diplomatique, ça a tué un homme très important dans l'hiérarchie des gardiens de la Révolution, et c'est un moment où il y a un problème de crédibilité aujourd'hui pour l'Iran, pour son axe, pour Hezbollah, qui de plus en plus sont vus comme dissuadés ouais. par l'Israël, ce qui veut dire c'est un aveu de faiblesse. Donc ils doivent rétablir un peu de leur...
Donc si on suit votre raisonnement, ça veut dire frapper fort.
Oui. Alors,
ça veut dire frapper où ?
Il y a fort et moins fort, mais avec...
Il y a massif et important, c'est ce qu'on a compris sur la nuance militaire.
C'est assez peu probable que les Iraniens choisissent le plus haut niveau de riposte.
C'est quoi le plus haut niveau de riposte ?
Ouais. C'est-à-dire...
On va peut-être laisser la parole au général.
Oui, une attaque massive, ça pourrait être des attaques massives à partir du Hezbollah, enfin à partir du front nord, ou de la Syrie, ce qui ouvrirait carrément un deuxième front. Voire un troisième avec la Syrie, face à Israël, et qui pourrait d'une certaine façon, parce que effectivement, oui, M. Gallant, le ministre, a déjà dit, moi j'irai jusqu'à Beyrouth, et l'attirer dans le piège qui est de rentrer au Liban, en se souvenant
Alors,
pas.
J'entends, vous parlez de frappe du Liban, mais vers quoi ?
Ben, vers le nord d'Israël, vers Israël, avec tous les moyens du Hezbollah, qui a des moyens considérables quand même, hein, de frapper. Israël se sentirait obligé de rentrer au Liban pour neutraliser comme il a fait en 2006, sauf qu'en 2006, il a dû repartir parce que ça ne se passait pas bien. Donc,
voilà. Ça veut dire que le scénario qui est privilégié, ça n'est pas une frappe de l'Iran vers Israël, ça c'est la guerre totale.
Je pense que là, ça va être compliqué. L'autre frappe importante, mais pas massive, ça pourrait être une ambassade dans un pays européen, par exemple. En citant l'Allemagne, pourquoi pas, qui est un grand soutien d'Israël. Le détruire là-bas, ça pourrait être quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle des attaques indirectes, ou une ambassade israélienne d'ailleurs.
Armin Raifi.
Ouais, j'aimerais revenir à la question de Michel, je crois, le téléspectateur. L'Iran a totalement les moyens, avec son programme balistique, de viser n'importe quelle cible en Israël. Mais l'Iran n'y a pas intérêt, car s'il y a attaque massive depuis le territoire israélien en Israël, derrière les répercussions, la riposte israélienne sera terrible, et potentiellement sur le site nucléaire iranien. Le programme nucléaire iranien, le principal pays qui se sent menacé par ce programme, c'est Israël. Alors la question après, c'est peut-il Israël se permettre de viser le programme nucléaire iranien sans l'aide des États-Unis ? Avant le 7 octobre, en tout cas, il n'avait pas les bombes anti-bunker nécessaires pour frapper les sites iraniens enfouis. Maintenant, pour revenir justement au 7 octobre et même avant, ça fait environ 12-13 ans que c'est Israël qui frappe en Syrie des dizaines de cibles iraniennes ou pro-iraniennes en Syrie. Il ne faut pas oublier que l'Iran a été invité à l'époque officiellement par Bachar el-Assad, les conseillers iraniens des gardiens de la Révolution, à venir l'aider à réprimer la rébellion, les manifestations pacifiques, ensuite la rébellion armée. L'Iran en a profité pour étendre ce qu'on appelle l'axe chiite, son axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth jusqu'à la mer Méditerranée. Sauf qu'Israël ne l'entend pas de cette oreille et estime que la présence aujourd'hui iranienne au-delà du Hezbollah, à cette présence-là, c'est ajouter une présence à la Syrie, en Syrie, donc au niveau du Golan. Il y a des milices chiites pro-iraniennes aujourd'hui qui sont actives dans le Golan syrien, même si leurs frappes contre le territoire israélien sont...
Je peux vous ramener, pardon, à une question terre-à-terre.
Oui,
une question basique. La question qui est posée, c'est quelle forme pourrait prendre cette attaque massive annoncée par les services de renseignement américains ? À quoi ils se préparent ?
Mais écoutez, moi, je doute que les Iraniens frappent directement depuis le territoire iranien avec des missiles balistiques sur le territoire israélien. Ce serait un arrêt de mort pour le régime. Et le régime a montré au cours des quatre dernières décennies que, en termes d'attaque frontale, ce n'était jamais la stratégie qu'il privilégiait parce qu'il, militairement d'un point de vue technologique, il est inférieur à l'armée israélienne et à l'armée américaine. L'Iran, sa spécialité depuis quatre décennies, c'est la guerre asymétrique, c'est la guerre via des proxys. Donc, moi, je pencherais davantage
pour
vers
cette voie-là.
Une attaque des rebelles yéménites houthis qui disposent de matériel iranien, de matériel balistique, de milices chiites en Irak. On sait qu'on a une alliance qui s'appelle la résistance islamique en Irak, composée de milices chiites irakiennes.
Pour viser des intérêts américains aussi, c'est possible ? Des intérêts occidentaux ou
israéliens ? Je pense avant tout Israël. Aujourd'hui, Israël qui est avant tout visé, compris dans la rhétorique du guide suprême iranien et des principaux généraux des gardiens de la Révolution. Une autre possibilité, Hezbollah, j'en doute, parce que le Hezbollah, lui aussi, a fait preuve de retenue, n'a pas intérêt à un embrasement du conflit au Liban, vu la situation actuelle au Liban. Une dernière possibilité serait éventuellement la question du Golan, territoire syrien occupé par Israël, annexé par Israël en 1980 et que les Iraniens ont déjà visé par le passé.
Alors, David Rigoulet-Rose, ça fait longtemps, vous, que vous êtes sur une logique escalatoire, comme on dit dans la région. Est-ce qu'on n'est pas à la veille de ce moment-là ? Ça fait dès longtemps que vous analysez cette situation en disant, ça peut mal se terminer.
Oui, c'est clairement, le 7 octobre constitue un game changer. D'ailleurs, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré le 9, deux jours après, nous allons changer le Moyen-Orient.
Oui.
Les règles ont changé avec le 7 octobre, avec toutes les incertitudes, les inquiétudes évidemment que ça peut impliquer. Mais la situation avait déjà évolué avant, parce que son prédécesseur, Naftali Bennett, avait développé une nouvelle doctrine qui est la doctrine Octopus.
C'est la doctrine.
C'est-à-dire, c'est la doctrine de la pieuvre en disant que désormais, par rapport à ce qui se faisait précédemment, et Armin a évoqué les frappes multiples qui avaient lieu sur la Syrie notamment, c'était l'idée qu'on tapait les mandataires. Les membres de la pieuvre. Et à partir de la doctrine, donc ça a été officialisé il y a 2-3 ans, donc c'était en 2022, donc c'était le fait de dire que désormais on allait taper la tête. Ça voulait dire qu'on allait cibler aussi directement ce qui s'est passé dans l'index consulaire. On a ciblé directement les Iraniens et pas uniquement les mandataires. Mm. En l'occurrence, le numéro 2, enfin un des plus hauts gradés de la force Al-Quds, et c'est pas le seul, il y en a eu d'autres.
Est-ce qu'il y a un lien entre ce que nous sommes en train de discuter et ce qui se passe à Gaza ?
Tout est articulé de toute façon. On ne peut pas dissocier ce qui se passe à Gaza du reste, puisque le point de départ, le point de bascule, c'était le 7 octobre. Ouais. Même si évidemment, le 7 octobre a concrétisé, a catalysé une évolution qui était malsaine, globalement. Mais effectivement, aujourd'hui, ça prend un tour tout à fait différent, parce que vraisemblablement, c'est ça qui inquiète, les Israéliens ont intégré le fait que la guerre ne se limitera pas à Gaza.
Ah oui ? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Plusieurs éléments. D'abord, les déclarations du Havgaland qui parlent de plusieurs fronts, qu'il y a une mobilisation à la frontière nord avec plusieurs divisions et qu'il y a l'échéancier potentiel d'un conflit avéré au Liban, qui ne serait pas dissocié de l'axe de la résistance dans d'autres régions. Et ils ont intégré ça depuis longtemps. Et en avril, déjà, Yoav Galland disait de toute façon, l'idée de guerre limitée est devenue caduque.
Donc l'escalade, elle est là, en fait.
Elle est déjà là.
Ouais. Je pense que non seulement ils l'ont intégré, mais c'est une volonté, d'une certaine façon. Le gouvernement israélien actuel...
De manière proactive.
A intérêt à la guerre. Et moi, oui, bien sûr, parce que depuis le 7 octobre, il a la guerre sur le territoire. Mais comme il doit rétablir sa puissance et sa dissuasion, il doit montrer ailleurs que c'est lui qui domine. Et c'est assez frappant, depuis le début de la guerre, précisément le ministre de la Défense qui en permanence parle du Liban et de Beyrouth, alors que jusqu'à maintenant, ouais. le Hezbollah était plutôt pondéré. Hein. Il n'a pas été très agressif. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est Israël qui me fait
l'escalade. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette crise, y compris sur ce plateau, j'entends des experts qui disent non, au Liban, c'est maîtrisé, le Hezbollah n'a pas intérêt, non, c'est maîtrisé, l'Iran n'a pas intérêt. Non, et vrai. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'au-delà de leurs intérêts, c'est en train de déraper.
Logique systémique.
Mais vous avez oublié un acteur dans ce que vous venez de dire, c'est quand même Israël.
Bien sûr.
Israélien, le cabinet de guerre, avec quand même à sa tête Netanyahou, qui, en période de guerre, enfin, doit sa survie d'une certaine manière.
À la guerre.
En tout cas, à la poursuite de la guerre, à la poursuite de cet état de guerre, ce qui lui permet d'échapper et à des élections, ce que demande d'ailleurs Benny Gantz, et à la possibilité de poursuites judiciaires qui, pour l'instant, sont...
Lui aurait un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Lui aurait un intérêt politique, alors que ce qu'on m'explique en général, c'est que tout ça est maintenu parce que chacun joue ses intérêts particuliers.
Il y a un autre acteur que vous avez d'ailleurs oublié.
L'élément que vous soulignez, tout le monde dit craint l'escalade, mais en fait, nous craignons tous l'escalade. Hein, l'effet papillon des crises, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, on cherche à se rassurer en disant ça n'est pas possible, comme on le disait hors plateau, à propos du 24 février 2022, où tout le monde disait avant, à part les Américains, disait mais c'est pas possible, il va pas faire ça. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même position. On dit ça va pas escalader à ce point-là. Les Houthis font le truc dans leur coin, le Hezbollah dans son coin, mais tout ça, ça reste gérable. Parce qu'on a peur d'arriver au niveau où ça sera beaucoup moins gérable.
Ouais. Vous vouliez ajouter un acteur ?
Oui, les Américains. Clairement, les Américains qui, depuis le début, ont déjà dissuadé les Israéliens d'attaquer préventivement le Liban comme ils s'apprêtaient à le faire au lendemain du 7 octobre. Parce que, d'après les informations des services de renseignement israéliens, le Hezbollah s'apprêtait à envahir Israël. Ce n'est pas arrivé. Les Américains les en ont empêchés. Aujourd'hui, on voit clairement que de la part du Liban, en tout cas du Hezbollah, pardon, il n'y a pas de cette velléité d'entrer dans une guerre totale, même si le Liban, en tout cas le Hezbollah lui-même, a entamé et commencé les hostilités dès le 8 octobre en solidarité avec Gaza. Mais pour revenir aux Américains, les Américains sont maîtres dans l'art de la dissuasion. Ils ont dépêché très tôt dans la région, en tout cas méditerranéenne orientale, leurs navires. Mais les Américains ne souhaitent pas de guerre. Les Américains, contrairement aux Israéliens, leur doctrine Octopus, n'ont jamais souhaité frapper directement les Iraniens.
Donc là, la déclaration de Joe Biden avec laquelle nous avons commencé cette émission, c'est une espèce de mise en garde qui vise à faire retomber la pression.
Une invitation
au calme.
Adressé aux Iraniens à calibrer la réponse.
Raymond Taz.
Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération.
Alors pas trop, parce qu'il nous reste deux minutes.
Les hommes ont bien parlé, je vais juste parler deux minutes.
Vous ne pouvez pas me faire ce procès-là, Raymond Taz.
Autour de la table. La première, c'est que les gens essayent de dire... tout est maîtrisé, personne n'a intérêt à la guerre. Je suis désolée, en fait, la guerre, ce n'est pas un truc qu'on peut calibrer. Il y a de grosses probabilités, de mauvais calculs. Et c'est ça le vrai danger, le vrai risque depuis le 7 octobre. Parce qu'il y a des escalades et parce que personne ne sait où est la ligne rouge pour chacun d'entre eux. Et donc, on est dans un flou assez important avec un gros risque de bascule dans une vraie guerre à cause d'un mauvais calcul. Faut pas oublier qu'en 2006, la guerre entre le Hezbollah et Israël s'est déclarée à cause d'un mauvais calcul. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, juste sur la doctrine sécuritaire d'Israël, ce qui a changé, c'est que la doctrine sécuritaire d'Israël a été ébranlée le 7 octobre. Donc ils doivent revoir toutes les bases de leur sécurité, et c'est pour ça qu'ils sont dans une logique escalatoire pour reprendre le contrôle de leur sécurité.
Quelles sont les limites qu'ils se fixent à eux-mêmes ?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que même au sein du gouvernement israélien, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à définir des objectifs de guerre pour établir la vraie sécurité pour leur peuple et qu'ils soient des objectifs atteignables.
Pour l'Iran, en tout cas, la menace, et on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais on va le faire maintenant, est aussi interne. Le régime a procédé à 853 exécutions l'an dernier, une augmentation spectaculaire qui n'a pas fait taire les contestations et en particulier celle des femmes qui, dans la rue, sur les réseaux sociaux, continuent de défier tête nue le régime des mollahs. Anne Maquignon, Nicolas Baudry-Dasson.
Sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale. Deux Iraniennes dansent et chantent en public, sans voile, dans un lieu très fréquenté du nord du pays. Toutes deux ont été retrouvées et arrêtées pour violation des normes sociales. La loi islamique interdit à une femme en Iran de danser en public. Quelques jours plus tard, c'est une autre vidéo qui fait le tour du monde, vue des millions de fois. Cinq jeunes iraniennes, crop top, cheveux au vent, dansent en bas de chez elles sur un tube mondial. Même scène et même conséquence, les cinq jeunes filles sont arrêtées, détenues et certainement forcées à enregistrer ses excuses publiques. Impossible de savoir s'il s'agit vraiment d'elles et dans quelles circonstances cette vidéo a été enregistrée. Toutes ces histoires ne sont pas sans rappeler une certaine Mahsa Amini, jeune étudiante de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs en septembre 2022 pour port non conforme du voile. Elle décède quelques jours plus tard. Un symbole de l'oppression qui réveille la colère partout dans le pays. Une révolte suivie d'une répression sanglante. Et aujourd'hui, une tension qui persiste entre deux camps, deux visions de la femme. Ici, une mère et sa fille, sans voile, se font interpeller par un homme dans une épicerie. Court échange, avant qu'il ne leur renverse un pot de yaourt sur la tête. Depuis deux ans, face au courage de ces femmes, un pouvoir inflexible. La semaine dernière, encore, devant tous les dignitaires du régime, le guide suprême déclare la guerre aux femmes non voilées.
Pour les femmes, se couvrir le visage et les deux mains est obligatoire. On ne peut s'en passer. Notre peuple est musulman et pratiquant. Nos femmes sont pratiquantes. Elles doivent respecter l'ordre de la charia. Il y a une disposition légale. La loi est obligatoire pour celles qui croient en la charia et aussi pour celles qui n'y croient pas.
Une mise en garde et des nouveaux moyens pour interpeller les réfractaires via les caméras de vidéosurveillance. La police a annoncé qu'elle allait recourir à l'intelligence artificielle pour repérer les femmes qui violent le code vestimentaire.
Grâce à l'utilisation de technologies et d'équipements de pointe, la personne est identifiée. Elle sera ensuite avertie. Puis cette personne sera présentée au système judiciaire avec les documents nécessaires pour traiter le problème.
Maintenir la pression. Dans cette vidéo publiée par le régime iranien, les femmes non voilées sont clairement identifiées. Dans la seconde où leur visage est détecté, leur identité est déclinée. Le message est clair, le régime vous surveille. Autre signe de durcissement, les voitures des forces de l'ordre ne sont plus des véhicules siglés, mais des voitures banalisées pour plus de discrétion. Il ne reste alors aux femmes, pour s'exprimer librement, que de crier leur colère dans la nuit.
Votre réaction à ce reportage ?
C'est terrible, absolument dramatique, ouais. de voir ces images, ce qui se passe. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on en a parlé en France un petit peu, au début. Il y avait même des manifestations en France, hein, ouais. De femmes iraniennes, et puis plus rien. On n'en parle plus.
Bah là, on en parle, du coup.
Elles, hein, voilà, allez. Exactement. Elles mènent leur combat toutes seules.
Cette question de Pierre en Gironde. Les dirigeants iraniens veulent la guerre, mais quelle sera la réaction du peuple iranien ?
Bah alors déjà, on a quand même parlé du fait que les dirigeants iraniens ne voulaient pas la guerre.
Ouais.
Et surtout qu'ils étaient davantage dans la retenue parce qu'ils feront en confrontation avec les Américains, en tout cas direct, et Israéliens, ils seraient perdants. Donc surtout, ils s'emploient depuis quatre décennies à ne pas provoquer directement, en tant qu'Iraniens, les dirigeants. Donc je ne suis pas certain qu'ils souhaitent la guerre. Pour le peuple iranien, ce qui est très intéressant, c'est que, à l'inverse de beaucoup de populations arabes, musulmanes, sunnites de la région, ils ne sont pas farouchement pro-palestiniens. Et on voit bien que le soutien indéfectible du régime iranien à la cause palestinienne vise avant tout à s'acheter de l'influence auprès des populations moyen-orientales qui sont avant tout arabes, sunnites, à l'inverse des iraniens. Voilà, il ne s'inscrit pas en Iran. Toutes les largesses du régime et ce financement de groupes comme le Hamas, comme le Hezbollah, est assez décrié. D'ailleurs, je me souviens de slogans prononcés lors d'autres manifestations. Ni Gaza, ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran. Oui. Donc là-dessus, il y a vraiment...
Pas forcément pro-palestinien ou en soutien du peuple palestinien, mais totalement contre Israël.
Le peuple iranien ?
Oui. Pas forcément.
Ah non, je pense que c'est un des plus, on va dire, pro-occidentaux et même, enfin, n'est pas anti-israélien.
D'accord.
Moi, je n'ai pas le souvenir
d'accord.
en Iran, la population. Peut-être que c'est le cas, et certainement, chez les 20% d'Iraniens, sur 80 millions d'habitants, qui soutiennent encore le régime par intérêt ou par idéologie. Ouais. Pour le reste de la population, une grande, je trouve, indifférence. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai, en tout cas, les témoignages que j'ai encore
c'était
aujourd'hui.
Il y a combien de temps ?
Par rapport à ce qui se passe. Mon dernier passage en Iran, c'était il y a 5 ans.
5 ans.
Et depuis, en tant que franco-iranien, ce n'est pas forcément le moment d'y retourner.
Forcément.
On a actuellement 4 otages encore retenus sur place.
Ouais, ouais. Oui, sur cette question qui vient d'être posée sur comment est-ce que le peuple iranien pourrait éventuellement réagir à une frappe et est-ce qu'il l'attendent, qu'il la redoute.
Il y a un calcul implicite du gouvernement qui sait qu'il est hors sol par rapport à sa population, qui est largement sécularisée. D'ailleurs, le reportage est pas totalement négatif, ça montre deux choses. C'est que les femmes n'ont pas, enfin les filles n'ont pas remis le voile, sinon elles seraient pas pourchassées.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui va pas de soi et que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est aussi pour pas se retrouver physiquement en face de celles qui sont en infraction, parce que très souvent dans la rue, la police des mœurs était prise à partie par la population qui soutenait celles qui...
On l'a vu dans la séquence, là.
Voilà. Ouais. Donc, le régime sait très bien qu'en réalité, là-dessus, il y a une déconnexion totale, mais il peut jouer sur une éventuelle agression contre le pays, l'Iran, pour, c'est un calcul qu'il peut faire, parce qu'il y a un nationalisme iranien, une fierté iranienne. Et même si la majorité de la population déteste le régime, ça ne veut pas dire que s'il y avait une agression extérieure, il ne serrait pas les coudes. Et c'est certainement le calcul des autorités qui savent que par ailleurs, de toute façon, il y a une défiance avérée vis-à-vis du régime.
Raymond Taz, il est fragile, le régime ?
Il est un peu fragile, oui. Il est fragile économiquement, mais je pense que même si le peuple iranien ne serait pas du tout en soutien, au moins 50% de la population ne serait pas en soutien d'une guerre avec Israël, malheureusement, ils ont très peu de recours. Le peuple iranien a très peu de possibilités de vraiment mettre de la vraie pression sur le gouvernement. Pourquoi je dis ça ? Parce que jusqu'à maintenant, même si cette contestation continue depuis un an et demi, et c'est admirable et c'est impressionnant, étant donné la répression qui existe dans ce pays, aucun des vrais dirigeants de l'État profond, de l'appareil sécuritaire, n'a fait défection. Et jusqu'à ce que ça se passe, ça va être très difficile pour le mouvement de contestation d'arriver à changer politiquement la donne.
Mmh. Mais une des raisons pour lesquelles il y a eu très peu de défections, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir est vraiment entre les mains d'un noyau dur et qu'on a quand même un guide suprême ultra-conservateur qui dirige le pays, mais un gouvernement qui n'est plus entre les mains des modérés ou pseudo-modérés, mais entre les mains des ultra-conservateurs. Il ne faut pas oublier que le président Ebrahim Raisi est accusé par de nombreux opposants iraniens d'avoir joué, et même c'est avéré, un rôle dans la répression de milliers de manifestations, d'opposants politiques à la fin des années 80. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, la contestation se poursuit en Iran, non pas via des manifestations, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on en parle moins aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de manifestations de rue, mais va...
Sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, et surtout par le fait que les femmes continuent à ne pas porter le voile, en tout cas une majorité dans les grandes villes du pays. Maintenant, ne pas mettre le voile, ce n'est pas non plus... aujourd'hui, c'est une forme de contestation, ça montre la déconnexion totale entre régime et population, mais le régime n'a utilisé que la répression pour...
853 personnes ont été exécutées.
Alors, elles ne sont pas toutes des opposants politiques. Il y a beaucoup de trafiquants de drogue.
Et plus 48% en un an.
Mais il y a eu au moins 9 manifestants qui ont été exécutés. Sur le court terme, le régime a gagné puisqu'il a réussi à faire taire la répression. Mais en ne répondant que par la sécurité, il s'est condamné à plus moyen terme.
Je voudrais qu'on parle du nucléaire. Évidemment qu'à chaque fois qu'on parle d'une frappe de l'Iran contre Israël et une éventuelle riposte d'Israël face à l'Iran, on pense au nucléaire. Et je voudrais que vous écoutiez ce que dit l'autre puissance de la région, l'Arabie saoudite, qui craint que l'Iran ait la bombe. Écoutez Mohamed Ben Salman.
Est-ce que cela vous inquiète que l'Iran puisse avoir la bombe atomique ?
Nous sommes inquiets quand n'importe quel pays obtient l'arme nucléaire. C'est une mauvaise nouvelle. Cela ne sert à rien, l'arme nucléaire, car vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais un pays qui obtient l'arme nucléaire, c'est comme une déclaration de guerre au reste du monde.
Si l'Iran obtient l'arme nucléaire, que ferez-vous ?
S'ils l'ont, nous devons aussi l'avoir.
Oui, voilà, c'est clair.
Oui, non mais il est clair que... la décision du président Trump d'arrêter le contrôle qui était dans l'accord JPOC du raffinage du raffinement.
L'enrichissement d'uranium.
D'uranium, pardonnez-moi. Était une erreur énorme. Que Israël pensait à un moment, il faudrait qu'on fasse des frappes préventives, en fait, avant que Israël n'ait l'arme nucléaire, juste avant. Ça ferait des frappes préventives. Maintenant, il n'en avait pas les moyens, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, on en est là aujourd'hui. Mais pour revenir, c'est un petit peu. Ce régime, ces régimes extrêmement autoritaires. Je vais prendre un autre exemple, c'est la Corée du Nord. En fait, l'arme nucléaire, c'est ne me touchez pas à mon régime et laissez mon régime en l'état. Et moi, je m'organise à l'intérieur pour tenir la population. Et c'est un peu ce que veut faire l'Iran en se protégeant de l'arme nucléaire. Mais maintenant, on voit bien que les Iraniens, et là, on revient sur l'Arabie Saoudite, pardon, on revient sur l'antagonisme entre chiites et sunnites, qui est évident dans la région.
Moi, j'aimerais juste revenir sur l'erreur colossale de Donald Trump à l'époque, qui a déchiré un accord sur le nucléaire iranien que respectait la République islamique, et ça, ce ne sont pas mes termes, mais ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui font qu'aujourd'hui, l'Iran se retrouve sanctionné par plus de 1500 sanctions par les États-Unis suite à ce retrait unilatéral, donc se considère comme en état de guerre, en tout cas soumis à une guerre économique. Et l'Iran aujourd'hui n'est plus que jamais proche de la bombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Iran a assez d'uranium enrichi pour fabriquer, s'il le décidait, trois bombes atomiques. C'est-à-dire que en déchirant cet accord, trois bombes atomiques, oui. Après, il y a encore une phase de miniaturisation.
Ça veut dire, pardon, vous êtes très clair dans ce que vous nous dites ce soir. Moi, j'avais compris que, en fait, les déclarations de Raphaël Grossi, il disait, on sait à peu près ce qui se passe, alors qu'il y a une part d'opacité dans ce que fait.
Une grande partie des inspecteurs depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien ont été virés des sites nucléaires iraniens.
Donc, en fait, on ne sait pas.
On ne sait plus, mais effectivement, l'Iran a repris pas à pas et enrichi de manière considérable. D'après les agences de renseignement américains, l'Iran n'a pas pris la décision. Donc, s'il prend la décision de fabriquer la bombe, une fois que l'uranium est enrichi, ça lui prendrait encore 1 à 2 ans pour miniaturiser et vectoriser, donc placer la bombe sur une arme. Mais aujourd'hui, on en est là. 3 bombes. L'Iran a assez de matière pour avoir 3 bombes. Et dernière chose qui est importante, le genre d'action menée par Israël, si on se met d'un point de vue israélien, on peut le comprendre, vu que cette personne qui a été éliminée, Mohamed Reza Haidari, joue un rôle considérable dans le soutien aux milices chiites contre Israël. Sauf que aujourd'hui, cette décision israélienne de frapper un site diplomatique, en dépit des conventions de Vienne qui volent en éclats, va pousser les plus radicaux en Iran à se précipiter vers l'arme ultime de la dissuasion, c'est la bombe atomique.
Oui, mais en réalité, ils n'ont pas besoin de la faire. La dissuasion, elle est déjà implicitement là. Quand vous êtes ce qu'on appelle un état du seuil, c'est-à-dire que vous avez la capacité, le matériau, pour la produire. Donc après, c'est une décision politique et non plus technique, parce que techniquement, de toute façon, c'est fait. Et donc, il y a déjà une forme de dissuasion. Le problème, c'est dans un engrenage régional, s'il y avait une frappe contre l'Iran, la décision pourrait être prise de la faire. Et c'est là où c'est extrêmement. L'Iran n'est pas comme la Corée du Nord qui voulait montrer qu'elle faisait la bombe avec le plutonium.
L'Iran. Donc ce qu'on est en train de commenter là depuis le début de l'émission pourrait accélérer.
Ah bah s'il y avait une frappe directe.
Le cheminement de l'Iran.
Ah bah s'il y avait une frappe directe sur l'Iran, incontestablement, le choix de la décision politique pourrait être prise. Parce que de toute façon, d'ores et déjà, il y a une forme de dissuasion implicite. Et l'Iran joue là-dessus d'ailleurs, en disant je ne fais pas la bombe, j'ai pas besoin de la faire. Mais.
Mais vous avez raison, c'est exactement les termes de la conversation en catimini entre les États-Unis et l'Iran depuis au moins 6 mois, où les choses se sont à nouveau renouées entre eux, parce que les États-Unis veulent absolument éviter qu'on en arrive là. Et c'est un peu le cauchemar des gens qui sont dans les renseignements, qui travaillent sur cette histoire, c'est qu'on arrive après l'été à un moment où on a des renseignements qui montrent que l'Iran est en capacité réelle de produire une arme. Et c'est ça que tout le monde veut éviter. Et pourquoi est-ce que c'est important pour eux? C'est la dissuasion à nouveau. Mohamed Ben Salman, il dit que ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai. L'Iran ne veut pas cette arme parce qu'elle veut l'utiliser contre l'Arabie Saoudite ou Israël. Elle veut cette arme pour protéger le régime, même pas le pays.
On est dans des hypothèses, mais est-ce que Israël pourrait avoir intérêt à cette dérive, cette escalade, justement, pour justifier des frappes, pour empêcher les Iraniens d'avoir la bombe?
Alors, ça, c'est...
Non.
D'un côté, c'est une crainte, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette crainte qui plane quand il s'agit d'Israël et de ses attaques sur l'Iran. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, Israël n'a pas les moyens de le faire tout seul. Il a besoin des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas rentrer dans ça. Moi, ça, c'est important de garder en tête.
Juste répondre différemment à ce que vous venez à votre question. C'est-à-dire que l'Iran, en frappant massivement contre le territoire israélien, donnerait le meilleur prétexte à Israël pour frapper les nucléaires iraniens. Et les Iraniens en ont bien conscience.
Mais le problème par rapport à l'Irak et à la Syrie, c'est qu'il y avait un réacteur en Irak et en Syrie, ce qui n'est pas le cas du tout en Iran. Et donc une opération demanderait des moyens que de toute façon Israël ne peut pas faire seul. De toute façon, il faudrait un appui américain. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration, d'où la stratégie américaine d'inhibition, c'est-à-dire d'éviter le passage à l'acte, c'est-à-dire à la décision par rapport à la fabrication. Parce qu'ils peuvent le faire, donc ce n'est pas le problème. L'enjeu n'est plus là-dessus. Il est sur les deux étapes suivantes, c'est-à-dire miniaturisation de l'engin et vectorisation. Et là, on retrouve le balistique iranien. Les progrès du balistique depuis plusieurs années, parce que les deux ont été dissociés, mais pas dans l'esprit des Iraniens.
On parle des Américains. À quelles conditions, Général Dominique Trinquant, les Américains voleraient au secours d'Israël? On parle de la frappe, d'une hypothèse d'une frappe de l'Iran contre des intérêts israéliens sur zone ou en Occident, contre des intérêts américains. À quelles conditions les Américains changent de braquet?
Alors, ils changent de braquet, on l'a dit tout à l'heure, en étant dissuasif, en disant massif, on va frapper. Pour le reste, aider les Israël dans les opérations après une frappe qui serait importante et non pas massive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire pas la frappe
massive. Vous pouvez me donner la différence en termes militaires entre frappe importante et frappe massive?
La frappe importante, c'est, je vais prendre des extrêmes complètement, c'est la frappe sur la Knesset.
D'accord.
La frappe massive, c'est des centaines de missiles qui mettent la population israélienne dans une situation extrêmement difficile. Voilà. Donc voilà. Alors évidemment, j'exagère en disant
théorique,
la crise,
bien sûr.
Mais ça serait. Voilà, ça c'est une frappe importante qui touche au cœur Israël. Donc je pense que, si vous voulez, sur une frappe importante, il y aurait plein de moyens de contrer l'Iran avec d'autres moyens. De la même façon. Alors que les frappes massives, ça ne peut être que la décision, parce que sinon on passe à l'escalade et les Américains, eux non plus,
n'ont pas
intérêt du tout à l'escalade dans le Golfe.
Mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec les Américains dans cette séquence, c'est qu'ils se sont précipités auprès des Iraniens au lendemain de l'élimination ou de l'assassinat, selon les Iraniens, donc du général des gardes de la Révolution, le consulat iranien à Damas. Ils se sont précipités pour leur dire qu'ils n'étaient pas au courant de l'attaque et qu'ils n'avaient pas donc été briefés, qu'ils n'y avaient pas participé. Sauf que, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les avions qui ont été utilisés par les Israéliens, ce sont des F-35 américains, donc il semble peu probable,
qu'ils n'étaient pas au courant,
impossible d'un point de vue technique, que les Américains n'aient pas été au courant. Donc on voit bien la volonté, c'est ce que me disait il y a quelques jours un responsable iranien, on voit bien la volonté américaine d'envoyer un message à Téhéran, c'est-à-dire on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de guerre. Et tout ceci rentre en jeu quand on a ces discussions, ces déclarations.
Personne ne la veut.
Joe Biden, non.
Mais elle aura peut-être lieu, parce que vous nous disiez tout à l'heure, ça échappe parfois, y compris à ceux qui sont aux manettes.
Bien sûr.
Dans un contexte international marqué par la tension, on l'a bien compris, au Proche-Orient et la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a voulu aujourd'hui à Bergerac montrer que la France se mette en ordre de bataille face aux grands périls du monde avec le passage, comme il le dit, en économie de guerre. Léa Demirjian avec Michel Bouilly.
Ce matin à Bergerac, Emmanuel Macron entouré de ses ministres de l'économie et des armées. Le chef de l'État est venu visiter une usine de production de poudre. Un déplacement pour parler défense et armement.
Vous nous avez entendu parler de manière régulière, en effet, d'économie de guerre, moi-même, les ministres. Et donc nous sommes partis durablement pour nous installer dans un changement géopolitique, géostratégique, où les industries de défense vont avoir un rôle croissant, et c'est ce que nous mobilisons.
Le site de Bergerac va multiplier par 10 sa production de poudre de gros calibre. Façon pour l'Elysée d'illustrer le passage en mode économie de guerre. Depuis 2022 et la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron ne cesse d'utiliser cette expression.
Nous entrons dans une économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous.
Nous avons aussi développé des productions, dans ce cadre de l'économie de guerre, qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel.
Nous devons
aller encore plus fort sur une économie de guerre.
Fin mars, c'était le ministre des Armées qui demandait plus d'efforts aux industriels de l'armement, produire plus et plus vite.
Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant.
Le passage en économie de guerre, une volonté affichée par le gouvernement. Pour la droite, rien de plus que de la communication.
Le président de la République a fait un choix, celui de la guerre des mots, plus que celui de l'économie de guerre. Une stratégie qui nourrit certes les chaînes d'information en continu, mais pas les chaînes de production ou d'approvisionnement.
La France insoumise, elle, est vent debout, fermement opposée à la mobilisation des ressources économiques pour un effort de guerre.
Nous ne pouvons pas accepter, et nous assumerons politiquement jusqu'au bout ça, nous ne voulons pas du vocabulaire de guerre. Nous ne sommes pas d'accord pour parler d'une économie de guerre. Parce que si vous faites une économie de guerre, vous désignez à qui vous voulez faire la guerre. Nous travaillons à faire la paix. Et que personne ne vienne nous dire que c'est de l'angélisme.
La gauche à l'offensive sur la question de l'armement. Il y a quelques jours, 115 parlementaires, membres de la France insoumise, des communistes et des écologistes, écrivaient au président.
Pour œuvrer à la paix, nous, parlementaires, vous demandons d'arrêter immédiatement toute vente d'armes, même celles jugées uniquement défensives, au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou.
Les signataires s'appuient sur un article du média d'investigation Disclose, qui révèle que la France fournirait en secret des équipements de mitrailleuses à Israël.
Ces équipements sont en fait de petites pièces métalliques servant à relier entre elles des balles de fusil mitrailleurs. Ces maillons M27 permettent des tirs en rafale.
Au lendemain des révélations, le ministre des Armées est sommé de s'expliquer.
La licence française qui a été donnée ne donne pas droit à l'armée israélienne d'utiliser ces composants. Vous avez des licences qui ne concernent que des matériels dont la vocation est à réexportation, c'est-à-dire pas usage par l'armée israélienne, mais qui sont des composants, jamais d'armement.
Pour la période 2024-2030, la loi de programmation militaire prévoit une enveloppe de 413 milliards d'euros. C'est 40% de plus que sur la période précédente.
Allez, va, ouais.
On était déjà en plein débat sur cette polémique, en tout cas cette charge de la gauche sur la France qui livre des armes à Israël, en disant ce sont pas des armes, ce sont des armes défensives ou des maillons qui servent à relier les balles entre elles. C'est des armes ou c'est pas des armes?
Oui, ça fait partie de l'armement. Maintenant, si vous voulez, de chaque fois qu'on parle d'armement. Un militaire qui vous parle, oui. On se fait des nœuds au cerveau entre l'armement défensif, l'armement offensif, l'armement qui est en dessous du seuil, etc. etc. Bon, quand on y contribue, on y contribue. Si vous voulez, là, on parlait de l'armement dont la France a besoin, essentiellement pour l'Ukraine et pour la France. C'est de ça dont il faut parler.
Hein. L'économie de guerre.
Le reste, c'est totalement... Enfin, la France ne fournit pas grand-chose à Israël, hein, vraiment. Donc... Sur ce dossier-là, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on emploie comme terme en parlant d'économie de guerre. Parce que l'économie de guerre, pour M. Poutine, c'est facile. Il appuie sur un bouton, toute l'industrie se transforme et tout va bien. Nous, notre problème, c'est qu'on doit fabriquer ça.
C'est quoi ça?
Ça, c'est le canon César. Mmh. On doit fabriquer ces armements sans que la population française en ressente une différence. Ça ne doit pas toucher l'économie.
Et en période de disette budgétaire.
Voilà. Alors, il y a le budget, il y a aussi le fait qu'on va vendre des canons, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des voitures, par exemple. Vous voyez, enfin, des choses comme ça. Et ça, c'est très, très important. Et la difficulté qu'on a, pour contredire ce que disait tout à l'heure M. Mélenchon, c'est qu'on ne reçoit pas d'obus. Donc, on n'est pas en guerre à recevoir des obus. Mais en cyber et en communication, je peux vous dire qu'on est en guerre. Et on est en guerre depuis un petit moment. Et ça, il l'oublie un petit peu. Peut-être en fait-il partie. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. La guerre, ce n'est pas seulement des bateaux, des avions et des canons. C'est aussi ce qui touche dans nos cœurs. Et d'essayer de dire, finalement, tout va bien, on continue comme avant, on l'a fait pendant 30 ans. Et c'est ce qui nous a amené à ne plus avoir la capacité de produire. Et c'est pour ça que le président, ce matin, était chez Eurenco. Pourquoi? Parce qu'on avait envoyé la fabrication de la poudre en Suède, pays particulièrement pacifique, d'ailleurs, au passage. Hein. Ouais. Et nous, on ne le faisait même plus en France. Donc là, on va le refaire en France. Et donc, on est obligé de remettre une machine en marche, mais une machine dans une économie libérale. Donc ça n'a rien à voir avec l'économie russe. Et donc, voilà la difficulté de l'économie de guerre, qui est peut-être un terme impropre, mais qui correspond bien à la situation à laquelle on se trouve.
Pour revenir sur le sujet qui nous anime ce soir, si l'Iran frappait Israël, que ferait la France, David Regularos?
Bah, c'est les Américains qui feraient, c'est pas la France. Hein.
La France ne dit rien?
Bah, de toute façon, les Européens sont un peu, j'allais dire, hors-jeu. C'est-à-dire qu'ils sont spectateurs de ce qui se passe. Spectateurs inquiets, mais spectateurs quand même. C'est pas eux qui ont une capacité. Pour une raison simple, c'est que l'Europe en tant que telle, c'est pas un État souverain, donc c'est pas un acteur géopolitique constitué. C'est ça le problème de l'Europe aujourd'hui. Donc il y a des États européens qui ont effectivement des positionnements, qui sont parfois d'ailleurs très différents.
Hein. L'Espagne.
Pourquoi l'Espagne?
Bah, qui est très accusatoire vis-à-vis d'Israël, au point d'aller jusqu'à envisager la reconnaissance d'un État palestinien de manière précipitée, etc. Alors que d'autres sont beaucoup plus comme les Allemands. Évidemment.
Donc, et nous, au milieu de tout ça, on se situe
Oui, au milieu, c'est ça. C'est, c'est un peu ça, c'est un espèce d'arbitrage d'impératifs contradictoires et difficiles à gérer, mais de toute façon, en termes de capacité, on n'est pas...
Ça veut dire que dans ce moment où on parlait de la chancellerie, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemande qui avait appelé au calme, à la désescalade, etc., je ne sais plus quel mot elle a utilisé exactement, la France ne dit rien dans ce moment-là de tension entre l'Iran et Israël?
Il n'y a pas eu de déclaration pour l'instant. C'est surtout, probablement, la discrétion est aussi le signe d'une inquiétude. Hein.
D'accord.
C'est aussi le fait de peser les mots, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place qui est vraiment très dangereux.
La France n'a pas de levier avec Israël, mais la France a encore des relations diplomatiques avec l'Iran. Et donc la France fait partie des pays occidentaux qui font passer des messages à l'Iran et qui reçoivent des messages de l'Iran. Donc c'est ça le rôle aujourd'hui de la France, c'est d'être une courroie de transmission d'une certaine manière diplomatique.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, ce qui était frappant, c'est que l'absence en fait, de condamnation de la part donc, de la France au Conseil de sécurité de l'ONU l'attaque du consulat, en tout cas de l'annexe du consulat iranien à Damas. Parce que là, pour le coup, c'est un cas flagrant de violation des conventions de Vienne. En termes de crédibilité, il serait, je pense, souhaitable que les attaques de n'importe quelle ambassade de pays soit condamnée, quelle qu'en soit l'origine.
Et comment vous l'expliquez ?
Bah, je l'explique par le fait que la France ne voulait certainement pas se mettre à dos Israël, qui est notre principal allié dans la région. D'accord. J'explique par le fait aussi que la résolution au Conseil de sécurité qui réclamait une condamnation a été déposée par la Chine et la Russie.
D'accord.
Voilà des raisons qui peuvent m'expliquer.
C'est ça.
Maintenant, pour répondre à la question de notre téléspectateur, je pense que la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait ?
Laquelle condamnerait, question ?
Elle se préciserait pour si jamais, si l'Iran frappait Israël.
Ah oui, que ferait la France ?
La France condamnerait, comme elle le fait souvent par rapport à Israël, apporterait son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est tout.
D'accord.
Simplement, puisqu'on parle de l'ONU et de la position de la France, il y a une tribune qui est parue dans Le Monde avec le président Sissi, le roi Abdallah et le président Macron.
Appelant à cesser le feu,
c'est-à-dire rappelant la résolution 27-28, qui, je le rappelle, était arrivée après une résolution américaine qui avait été bloquée et qui avait été proposée par les 10 membres non permanents et poussée par la France. Donc c'est un peu son rôle, c'est ce que disait Rim tout à l'heure. La France, elle est là-dedans, c'est pas l'acteur majeur, c'est les États-Unis, c'est évident.
D'accord.
L'acteur majeur. Mais elle joue son rôle, j'allais dire, de go-between, pour prendre un mauvais anglais, et d'essayer de jouer son rôle dans une région où elle a de fortes relations avec le Liban, avec la Jordanie et avec l'Égypte.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Que craignent les États-Unis en parlant d'attaques importantes contre Israël? Un nouveau 7 octobre?
On en a beaucoup parlé. C'est une attaque importante. Je le répète, non, je ne pense pas qu'une attaque comme le 7 octobre, mais des frappes importantes sur le territoire d'Israël, oui, pourquoi pas.
La riposte pourrait-elle aller jusqu'à des actions terroristes sur le territoire américain?
Non, absolument pas. Ça, c'est une ligne rouge, parce que l'Iran sait que S'ils font ça, les Américains vont taper très fort contre l'Iran. Ils veulent absolument éviter ça.
Ça veut dire pas non plus de frappe contre les intérêts américains ailleurs ?
Alors, c'est très intéressant parce qu'au début, après le 7 octobre, le rythme et l'intensité a augmenté. Mais après, les Iraniens et les Américains ont trouvé un peu un juste milieu et l'intensité est tombée. Là, ça a repris un tout petit peu, mais on ne voit pas une reprise massive des attaques sur les emprises américaines en Irak en particulier.
Il faut rappeler que là, le problème est entre Israël et l'Iran. Et tout le monde évite à ce que les Américains rentrent dans ce problème. C'est-à-dire aussi bien les Iraniens ne veulent pas que... cibler les Américains parce qu'ils ne veulent pas se retrouver face aux Américains. Ils cherchent à isoler le problème israélien là-dedans.
En revanche, les Israéliens, depuis le début, depuis le 7 octobre, en tout cas au lendemain du 7 octobre, ont tout fait pour que les Américains s'engagent davantage dans la guerre et donc de transformer cette guerre en guerre régionale. C'est notamment le cas de Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Mais ni les Américains ni les Iraniens n'ont souhaité rentrer dans cet engrenage direct.
Faut-il procéder à des frappes préventives sur l'Iran et où ?
Ça serait un peu le scénario catastrophique.
C'est ça. Ouais.
Parce que ça serait vraiment une escalade. Déjà, Israël a tapé une emprise diplomatique. Aller taper préventivement le territoire national réel de l'Iran, ça serait vraiment chercher une guerre juste régionale, mais même une guerre mondiale.
Les pays occidentaux ne sont-ils pas condamnés à soutenir Israël malgré le comportement dangereux de Netanyahou ?
C'est un peu le problème. Mais ce sont toutes les critiques que tout le monde adresse, y compris les Américains maintenant, à M. Netanyahou. Alors ça a été crescendo jusqu'aux dernières déclarations de M. Biden, y compris M. Trump.
Ouais.
Y compris M. Trump, ce qui était quand même une révolution là. Donc ça a été crescendo, mais je crois qu'on en a déjà parlé, la volonté du gouvernement de Netanyahou, c'est de continuer d'aller jusqu'au bout de sa logique de guerre.
Cette question de Dominique dans le Haut-Rhin. Que feront les Américains si l'Iran attaque Israël ? Peuvent-ils intervenir militairement en envoyant des troupes, général ?
Envoyer des troupes pas très nécessaires en Israël ? Non, je pense que... Je pense vraiment que la frappe importante ou massive iranienne doit éviter d'obliger les Américains à s'impliquer.
En fait, elle va être... calibré.
Elle va être très calibrée.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tsahal, sur tous les fronts, va-t-elle tenir longtemps ?
Ah, c'est un vrai sujet, y compris pour la société israélienne. Ouais. Je rappelle que 450 000 réservistes mobilisés, Israël souffre quand même.
Les communautés israéliennes souffrent.
Exactement.
Aussi, puisqu'il y a des gens qui sont mobilisés, donc qui ne sont plus en situation d'être des acteurs économiques. Donc il y a un roulement, mais enfin, de toute façon, il y a une limite. Et a fortiori, s'il y avait un élargissement des fronts, c'est un conflit qui a 6 mois. C'est un des plus longs conflits qu'Israël ait dû...
Ça entre d'ailleurs en compte dans la stratégie, je pense, et de l'Iran et du Hezbollah, à savoir qu'ils estiment qu'ils ont déjà gagné par rapport à Israël. C'est-à-dire qu'en poussant Israël dans la plus longue guerre à laquelle il a jamais été confronté, on a donc l'économie israélienne qui est affaiblie, on a la dissuasion israélienne qui a volé en éclats, et on a les alliés de l'Iran, le fameux axe de la résistance, milice chiite en Irak, en Syrie, milice rebelle Houthi au Yémen et Hezbollah, qui encerclent aujourd'hui sur plusieurs fronts Israël, même si encore une fois c'est calibré et limité. Donc ils estiment qu'ils n'ont aucun intérêt à changer cette stratégie, d'autant qu'Israël perd beaucoup de soutien à l'international, notamment en raison des massacres qui a lieu à Gaza, qui du coup beaucoup d'un point de vue médiatique.
Quelle est la doctrine nucléaire d'Israël ?
Ah bah à la base, c'est la doctrine de l'ambiguïté stratégique. Israël n'a jamais reconnu détentrice de la bombe. Mais il y a une déclaration d'un ancien responsable qui disait nous ne serons pas les premiers à utiliser l'arme nucléaire, mais pas les... Voilà.
C'est l'ambiguïté totale. Eux-mêmes ne disent pas qu'ils ont l'arme nucléaire.
L'Iran est-il soutenu par la Russie et où la Chine, Rim Montaz ?
Oui. Oui. L'Iran est clairement très proche plus de la Russie que de la Chine, mais ils ont des relations assez importantes avec la Chine aussi, oui. D'autant plus depuis qu'ils sont sous sanctions américaines.
J'ai cette dernière question de Milly à Paris. Pourquoi répondre à la violence par la violence ? La diplomatie est-elle en voie d'extinction ? En ce moment.
En tout cas, on est dans une séquence plutôt belligérante que diplomatique, c'est clair.
Bon, on l'avait bien compris. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir aux alentours de minuit. Mais vous savez que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay, en podcast, en rediffusion le matin sur France 5 à 9h et le soir à 21h sur France TV, sur France Info TV. C'est le canal 27. Demain, vous retrouvez en direct à 17h30 Maïel Hoquet. Belle soirée sur France 5. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.